Bonjour et bienvenue dans Back Channel, le podcast consacré aux coulisses de la politique internationale. Phoenix, vous êtes romancier, spécialiste du renseignement et vous commentez l'actualité stratégique sur l'Ukraine, la Russie, le Proche-Orient et l'Asie. Pour ce quatrième épisode, je voudrais parler des élections américaines de 2024 et des risques d'ingérence étrangère.
Bonjour Laura.
Bonjour Phoenix. Alors, vous êtes de retour de Washington, vous y faisiez quoi ?
J'y ai rencontré des lobbyistes, des experts en politique américaine et aussi les équipes de plusieurs sénateurs afin d'écouter leur version des choses et de faire un point, quoi.
Et ils vous ont parlé d'interférences étrangères ?
Oui.
Ce n'est pas un peu tôt ?
Il n'est jamais trop tôt pour influencer les élections du pays dont la politique étrangère reste la clé de voûte du système international. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on soit un atlantiste, un vétéré ou un pro-Poutine, l'ordre mondial tient par un fil, et ce fil, il est à la Washington.
Vous pourriez nous faire l'état des lieux à 6 mois du 5 novembre ?
Bien sûr, c'est un peu pour ça que j'ai passé quelques jours à Washington. D'abord, l'évidence, c'est l'élection la plus polarisée des 20 dernières années. Le pourcentage d'indécis n'a jamais été aussi faible, ça c'est très important. Et en fait, le problème des électeurs, et c'est des fois un petit peu surprenant quand on est en Europe, le problème des électeurs, c'est pas tellement pour qui vais-je voter, puisque bien que Trump et Biden soient les candidats les plus impopulaires des 30 dernières années, bon, il y a bien eu Clinton, Hillary Clinton et Trump qui font concurrence, la question de l'électeur moyen, c'est avant tout, est-ce que je vais me déplacer pour aller voter ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur les 15 milliards de dépenses publicitaires qu'on estime sur la période 2024, les budgets ne vont pas tellement aller au budget qu'on appelle de persuasion, hein, persuasion, c'est-à-dire des budgets qui sont censés convaincre l'indécis d'aller voter pour un candidat plutôt que l'autre, ou alors même de convaincre celui qui va voter pour le candidat B d'aller voter pour le candidat A. C'est donc ça les budgets de persuasion. Non, c'est là où la majorité des investissements va se faire, c'est ce qu'on appelle les get out to vote budgets. C'est en fait les budgets publicitaires qui sont censés convaincre les gens de se déplacer. L'électeur a déjà fait son choix depuis très longtemps, mais il n'est pas suffisamment motivé. On va donc investir énormément pour qu'il se déplace. Et d'ailleurs, les deux campagnes, j'ai parlé à des républicains et des démocrates, sont absolument convaincus que l'enjeu y est là. En gros, qui va réussir à mobiliser son électorat ? On dit souvent que Trump mobilise son électorat, mais n'oublions pas que l'électorat cœur de Trump n'est pas suffisant pour le faire gagner. Il faut qu'il mobilise aussi la portion des républicains modérés et une partie des indépendants pour qu'il puisse gagner contre Joe Biden. Quant à Joe Biden, là c'est différent. Lui, il faut en gros qu'il mobilise l'électorat qui a voté pour lui il y a 4 ans. Et ça, c'est vraiment pas gagné. Pour revenir sur les budgets de persuasion par rapport à Get Out to Vote, les premiers, bien que les investissements publicitaires ont évidemment carrément commencé depuis, on va dire depuis janvier 2024, là où ça va devenir complètement intense, ça va être pour les budgets de persuasion à partir de octobre et les budgets de get out to vote après la deuxième convention, donc vers la fin août.
Et tout ça, c'est à cause de la polarisation des opinions ?
Oui, dans 43 États, donc sur 50, les jeux sont faits ou à peu près. On ne peut pas écarter complètement une surprise, mais les jeux sont faits. Ça veut dire que les États voteront soit démocrate ou républicain. Hein. Aux États-Unis, si on part à quelqu'un et ils disent « Ah, je ne sais pas encore très bien pour qui je vais voter, qu'il habite, à New York ou en Californie », on lui dit en général « Ok, fais ce que tu veux, mais de toute façon, ton vote ne sert à rien. » Parce que le résultat est déjà gagné d'avance. La polarisation est telle que beaucoup d'États ont que ce soit Trump ou Biden, auront des marges de victoire qui seront finalement assez importantes. Mais par contre, dans les 7 swing states, ce qu'on appelle maintenant de plus en plus dans la presse américaine des battleground states, c'est-à-dire des États où il y a un vrai champ de bataille, parce que c'est là où tout va se jouer, dans ces 7 battleground states, tout reste à faire.
Et quels sont ces 7 États ?
Il s'agit de l'Arizona, du Nevada, de la Géorgie, la Caroline du Nord, c'est-à-dire les États de ce qu'on appelle la Sun Belt, donc au sud-ouest et au sud, et aussi le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, qui eux sont des États de la Rust Belt, ou aussi ce qu'on appelle le Blue Wall.
Et pas d'autres?
Trump essaie bien de pousser Biden dans ses retranchements au Minnesota et en Virginie, et du coup, Biden aimerait bien l'attaquer en Floride, qui est le troisième État en importance en termes de nombre de grands électeurs. Sur les 538, la Floride en représente 30, donc c'est évidemment absolument essentiel. Mais bon, c'est loin d'être gagné. Les démocrates, en général, souhaitent remporter la Floride et à chaque fois, ils sont déçus. Pour revenir sur les 7 Battleground States, sur les 538 grands électeurs, qui correspondent donc au même chiffre que les 438 représentants et les 100 sénateurs, hein, 438 plus 100, ce qui veut dire qu'il faut évidemment 270 grands électeurs pour remporter les élections présidentielles. Les 7 Battleground States représentent 93 votes, donc ça fait 93 sur 538. Donc ça fait quand même évidemment beaucoup, hein, ça fait pas loin de 20%. Et le problème de Biden, c'est que Trump est devant lui depuis à peu près 4 à 5 mois. Il est devant lui dans tous les Battleground States, donc les 7, sauf un, le Wisconsin, où Biden régulièrement a une toute petite marge par rapport à Trump dans les sondages. De plus, il ne faut pas oublier, ça c'est très important, qu'à niveau national, Biden a beaucoup perdu dans les intentions de vote parmi les Afro-Américains, les Hispaniques et les jeunes. Les Afro-Américains, ça fait à peu près 12% de l'électorat éligible, qui n'est évidemment pas le même que l'électorat qui va voter, d'où l'importance pour les deux candidats de rallier leurs troupes, hein. C'est ça le seul enjeu des élections présidentielles de 2024. Les Hispaniques représentent à peu près 14%, et les jeunes, bon ça c'est un petit peu plus difficile, un peu plus compliqué, un peu plus difficile à mesurer. D'ailleurs, ça ne veut pas dire que les Afro-Américains, les Hispaniques et les jeunes vont voter pour Trump, hein, quand on dit qu'il y a une érosion de l'électorat traditionnel de Biden là-dessus. Ça veut dire que c'est tellement serré, et rappelons-nous, c'est serré sur 7 États, hein, et c'est aussi aux États-Unis le principe du winner takes all, c'est-à-dire à part 2 États, donc sur 48 États, si vous avez une voix de plus que votre adversaire dans un État donné, vous remportez l'ensemble, l'intégralité des grands électeurs. Donc c'est pas proportionnel, hein. Ça, c'est aussi très très intéressant et très important. Mais ça veut juste dire que la domination du Parti démocrate sur ces trois électorats, donc afro-américains, hispaniques et jeunes, qui sont essentiels pour les démocrates, eh bien, elle s'érode énormément. Et que du coup, bah, il suffit que Trump prenne un point sur chacun de ses électorats, un point de pourcentage, pour que ça fasse basculer des États clés et cibles pour Biden. L'Arizona et le Nevada sont assez jeunes. Et de plus, le vote hispanique y est essentiel, puisque la population hispanique a énormément augmenté depuis 20 ans, 40 ans dans les États du Sud-Ouest. La Géorgie et la Caroline, là, le vote jeune est lui également important, mais c'est là, par contre, le vote afro-américain qui était également essentiel, bien plus que le vote hispanique, tout simplement en raison de la composition démographique de ces États du Sud traditionnels, ce qu'on appelle le Old South. Et évidemment, Trump, lui, domine chez les Blancs et surtout les gens qui n'ont pas fait d'études supérieures. C'est une des grandes fractures d'ailleurs de l'électorat. Ce qu'on appelle college educated et non-college educated. Les premiers sont à fond démocrates et les seconds à fond républicains. Donc, si on conclut, ça veut dire que sur ces 7 États, donc 4 de la Sun Belt et 3 de la Rust Belt, il est fort possible que Biden perde la Sun Belt. Pas sûr, mais fort possible.
Donc, Biden va perdre?
C'est pas sûr. Si beaucoup d'experts pensent qu'il a peu de chance en Géorgie, qu'il avait d'ailleurs gagné à la surprise générale en 2020, et en Caroline du Nord, que tous les républicains ont gagné depuis 25 ans, sauf en 2008, où là c'était Obama qui avait gagné contre McCain, c'est plus compliqué en Arizona et au Nevada. D'un côté, comme je l'expliquais, il est derrière les sondages en raison de l'effritement du vote jeune afro-américain et latino. Mais de l'autre, il y a des choses qui se passent dans ces deux États qui sont intéressantes, surtout l'Arizona. L'Arizona, ce qui s'est passé, c'est que la Cour suprême de l'Arizona, donc il y a évidemment la Cour suprême dont on parlait, mais en fait, quand on dit la Cour suprême, c'est la Cour suprême fédérale. Après, vous avez des cours suprêmes dans les 50 États. La Cour suprême de l'Arizona a en fait rétabli ou réveillé ou considérer qu'on pouvait toujours appliquer une loi datant de 1864, donc pendant la guerre de sécession, qui consistait à interdire complètement l'avortement. Quelques semaines plus tard, le Sénat, je crois, de l'Arizona a voté pour abroger cette loi. Mais ça a évidemment énervé beaucoup, beaucoup de gens. Il y a de plus la possibilité qu'il y ait ce qu'on appelle des ballot initiatives, donc en fait des référendums d'initiative populaire, qui aient lieu le jour du scrutin présidentiel, donc le 5 novembre, et qui portent sur l'avortement en Arizona et d'ailleurs aussi en Nevada. Or, si on se souvient bien, les républicains ont probablement raté leurs élections de mi-mandat, ce qu'on appelle les midterms, en novembre 2022, en grande raison à cause de la décision de la Cour suprême, dont Trump avait nommé 3 des 9 juges, de révoquer Roe v. Wade.
C'est-à-dire un arrêt de 1973 qui protégeait le droit à l'avortement à niveau fédéral et qui a été abrogé par la Cour suprême en 2022.
C'est ça. Au final, c'est une situation très paradoxale. Donc, d'un côté, les sondages donnent Trump gagnant depuis plusieurs mois, et de l'autre, il n'y a personne à qui j'ai parlé qui soit convaincu de la victoire de Trump. De plus, depuis son State of the Union...
Au début mars.
Oui, le State of the Union Address, c'est quand le président prononce un discours devant les deux chambres réunies. Ça arrive tous les ans. Donc il y en avait un, je crois, le 7 mars. Et là, Biden a beaucoup étonné par sa vigueur. Et depuis le 7 mars, juste avec un discours, il est remonté dans les sondages. Mais n'oublions pas que les sondages nationaux importent peu. On en revient toujours au même. S'il doit perdre la Sun Belt ou s'il a des bonnes chances de perdre les quatre États de la Sun Belt, il doit absolument gagner ce qu'on appelle le Blue Wall, c'est-à-dire la Rust Belt.
Et il n'a pas d'autre option ?
Si, oh, il y a tellement de combinaisons dans les élections américaines, surtout avec le système électoral par État. Il pourrait perdre le Michigan, remporter le Wisconsin et la Pennsylvanie, mais à condition de gagner soit le Nevada, soit l'Arizona.
Pourquoi Hillary Clinton a-t-elle perdu les trois États de la Rust Belt en 2016 face à Trump alors que Biden les a gagnés ?
Il faut comprendre la composition de l'électorat démocrate. C'est un électorat très composite et encore plus composite que l'électorat républicain. Je ne sais pas si vous vous souvenez du commentaire d'Hillary Clinton sur le « basket of deplorables ».
C'était une expression qu'elle a utilisée pour qualifier la moitié des électeurs de Trump et qui lui avait coûté très cher.
Oui, beaucoup la détestaient, tandis que Joe Biden, c'est le bon gars de Pennsylvanie, blanc, proche des ouvriers, des blue-collars. La Rust Belt, en fait, c'est le parti démocrate du passé tel qu'il était. C'est le parti démocrate à la Bruce Springsteen, qui s'intéresse à l'économie plutôt qu'aux sujets sociaux, qui, eux, préoccupent les progressistes des grandes métropoles.
Donc, pour simplifier, il doit gagner les trois États du Blue Wall.
Oui, et ça ne va pas être facile. D'après les sondages, il devrait gagner le Wisconsin, comme je le disais, mais rien n'est joué dans le Michigan et la Pennsylvanie, qui représentent respectivement 15 et 19 votes. S'il perd ces États, il perd les élections. Et c'est là qu'intervient la politique étrangère. En effet, la guerre à Gaza s'est carrément invitée dans le débat. Commençons par le Michigan. La banlieue de Détroit, surtout une ville qui s'appelle Dearborn, qui est une ville traditionnelle ouvrière, qui est maintenant la première ville des États-Unis à majorité arabe américaine, 55% de la population de la ville. Ce sont 300 000 arabes américains. Et eux, ils ne sont pas du tout contents, mais alors pas du tout, du soutien de Biden envers Israël. Et rappelons-nous ce que je vous disais tout à l'heure, les marges de manœuvre des deux candidats sont minimes dans ces États. Ils vont être gagnés à 0,5%, 1%, peut-être 1,5% au maximum. C'est pour ça qu'on les appelle des battleground states. Donc, le Michigan, à cause de Gaza, c'est pas gagné pour Biden. Ensuite, il y a la Pennsylvanie. Là, c'est le contraire. On en parle moins que le Michigan, parce que ça a eu moins d'impact pendant les primaires. Mais là, c'est pas une population arabe américaine importante qu'on trouve. C'est une importante population juive la plus importante des 7 battleground states. Il y a à peu près 300 000 électeurs éligibles de confession juive. Et eux, C'est le contraire du Michigan. Ils sont pas du tout contents du jeu d'équilibriste que joue Biden.
Notamment ses récentes déclarations sur le blocage de l'aide militaire à Israël, tant qu'ils ne seront pas partis de Rafah.
C'est ça. D'après les derniers sondages, l'intention de vote parmi la population juive de Pennsylvanie serait à 69% démocrate et 29% républicaine. Mais, comme dans tous les battleground states, il suffit d'une progression marginale d'1% parmi un sous-groupe, un électorat, pour que tout bascule.
Donc, on pensait que c'était la position de la Maison-Blanche vis-à-vis de l'aide à l'Ukraine qui allait être au centre des débats, mais en fait, le Proche-Orient semble avoir un effet de plus en plus important sur la politique intérieure.
Exactement, et surtout sur les calculs électoraux. Mais c'est là qu'on en arrive à l'ingérence. Car, d'abord, regardons à qui profite le crime. La Russie souhaiterait que Trump soit élu, ça, il n'y a évidemment aucun doute. Netanyahou, c'est pareil, pas pour les mêmes raisons. Netanyahou ne peut juste absolument pas supporter Biden, hein, depuis toujours. Mais après, évidemment, Israël est un allié alors que la Russie ne l'est pas. C'est un peu moins clair pour l'Iran et pour la Chine. Eux, ce qu'ils aimeraient, c'est semer la discorde, voire le chaos. Enfin, il y a quelque chose qui est sorti dans le magazine Wired il n'y a pas longtemps, qui n'a pas encore été beaucoup repris. Il semblerait que le réseau Doppelganger, qui est affilié au Kremlin, soit engagé dans une opération de subversion liée aux manifestations sur les campus américains, donc les mobilisations pro-palestiniennes, dont on a énormément parlé. Il y a eu 2600 arrestations déjà. La façon dont Doppelganger fonctionne, c'est qu'il poste sur les réseaux sociaux et qu'il renvoie sur des liens qui pointent sur des sites miroirs, ou plutôt des fausses versions de sites réputés, où ils exposent le lecteur à la désinformation. Donc, d'après un réseau anti-gouvernemental, celui-là, anti-gouvernemental, anti-gouvernement du Kremlin, qui s'appelle Antibot for Navalny, Doppelganger disséminerait des rumeurs comme quoi les manifestations seraient financées par les fondations Rockefeller, Soros, pauvre George Soros, il est toujours accusé de à peu près tout, et que la police userait de violence contre les manifestants, qu'il y aurait eu des morts, etc., etc. De plus, ces fausses rumeurs sont coordonnées avec des informations étonnamment similaires qui, elles, émanent de vrais sites étatiques affiliés au Kremlin, des médias publics, des chaînes Telegram, Sputnik, par exemple, qui est une des chaînes financées par le gouvernement russe et qui passe en Occident. Et tout ça, c'est pour davantage d'amplification. Mais ça ne s'arrête pas là. Selon NewsGuard, qui monitore la désinformation, on trouve aussi des centaines d'articles sur les médias affiliés à l'État, que ce soit en Chine ou en Iran, qui reprennent les mêmes thèmes. Donc, tout ceci est évidemment dirigé pour nuire à Biden, à niveau national, et a fortiori dans les battleground states qui détermineront sa victoire ou non. Mais ce n'est pas tout.
On vous écoute.
Selon des sources très confidentielles que j'ai rencontrées à Washington, le renseignement américain penserait que la Russie et l'Iran auraient financé les manifestations pro-palestiniennes spontanées sur les campus américains. Est-ce vrai ou pas? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que les mobilisations qui avaient déjà commencé depuis octobre, si ce n'est qu'on n'en parlait pas, elles accélèrent brutalement le 17 avril. Hein, ça commence avec Columbia, donc à New York. Et ça, le 17 avril, c'est le moment précis où le vote de l'aide militaire à l'Ukraine, Israël et Taïwan, donc les fameux 95 milliards de dollars d'aide, dont 61 pour l'Ukraine et de mémoire à peu près 17 pour Israël, tout ça, ça devient probable, alors qu'on pensait que ça n'arriverait pas. Et comme par hasard, à ce moment-là, c'est voté donc 3 jours plus tard, tout se met en place. Bien sûr, j'insiste, ça reste une hypothèse, pas une certitude, mais pour reprendre une terminologie de roman policier, la Russie a les moyens, elle peut parfaitement financer, elle a les réseaux installés aux États-Unis et ailleurs pour influencer des étudiants de campus, elle a le motif, affaiblir Biden est clé dans la stratégie de Poutine. Je ne veux pas dire que Poutine ne peut pas gagner la guerre en Ukraine même si Biden est réélu, mais c'est sûr que si c'est Trump, ça change tout, et ça change tout a priori dans l'esprit de Poutine positivement. Et donc la Russie a les moyens, le motif, et elle a l'occasion, qui est le courant de sympathie envers Gaza. Donc, je n'ai aucun doute de la bonne foi la grande majorité des étudiants. Ils se comportent vis-à-vis d'Israël comme leurs aînés l'ont fait à l'époque de l'apartheid, dans les années 90, ou surtout pendant les manifestations de 1968, à l'époque de la guerre du Vietnam. Mais sont-ils manipulés? Écarter cette possibilité me semble prématuré. En effet, il ne suffit pas de chanter de la rivière à la mer pour se transformer en Jane Fonda.